suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Nous sommes au vendredi 12 avril 2024 et il sonne 11h. Passez de quelques instants sur La Nouvelle Génération. Merci de nous choisir pour ce cinquième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas et Teda TV est à la mise en onde. Jérôme Akoucha assure la mise en ligne. Je suis au micro Pascal Lossou. Nos salutations fraternelles à vous tous et qui nous suivez en direct partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Daba. Vous avez ce privilège de nous suivre également partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au vendredi. Francisco Napokoura est là. Francisco, bonjour.
Oui, bonjour Pascal. Bonjour aux éditeurs et auditrices de La Nouvelle Génération. Sans oublier les techniciens qui sont derrière les baies vitrées et également les confrères et invités en studio.
Vous avez bien passé la semaine?
Oui, pas mal. Bien sûr que l'actualité est secouée.
Tout à fait.
La tête, c'est autre chose, mais quand même, on doit tenir.
C'est l'essentiel.
Ah oui, c'est l'essentiel.
De qu'on dise même d'ailleurs que nous devons bien nous préparer pour la 5e République.
Si y aura 5e République.
D'accord, ok. Fermé Teko Agbo ne va pas me démentir quand même. Fermé, bonjour.
Bonjour Pascal Lossou, merci de m'avoir invité.
J'espère que tu vas bien.
Oui, parfait, parfait. Avec la grâce de Dieu, tout va bien. D'accord. La République aussi va bien.
D'accord, c'est l'essentiel.
C'est l'essentiel.
Voilà. Vous le savez, nous avons un invité aujourd'hui, vous le voyez très bien. C'est bien directement. Directement, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes député à l'Assemblée nationale et nous attendons aussi un autre invité, bien sûr, que c'est Dr Fouli Ekwegada, politiste, enseignant, chercheur dans les universités du Togo, il va nous rejoindre incessamment. Alors, monsieur le député, nous avons invité alors pour cette actualité très dense et qui secoue même d'ailleurs l'opinion, puisque ça crée vraiment de polémiques alors dans l'opinion. Je veux bien parler de cette question de révision constitutionnelle. Nous allons en parler dans cette émission, tout au long de cette émission même nous allons en parler. Mais d'abord, par rapport surtout à votre parti politique, il y a un vent qui secoue votre parti politique ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe concrètement?
Je suis en train de le découvrir avec vous. Un vent qui secoue le parti, ça se levait combien de personnes?
On a appris quand même qu'il y a des démissions.
Oui, ben écoutez, si vous prenez tous les partis politiques, ici on a régulièrement eu des démissions dans beaucoup de formations politiques, surtout de l'opposition, parce que dans la grande maison, il n'y a pas beaucoup de démissions. Mais bon, dans un parti politique, vous savez, un parti politique est une association. Des militants peuvent, pour des raisons qui leur reviennent, décider de ne pas continuer l'aventure. Mais nous, le Parti politique Nouvel Engagement Togolais, c'est 52 fédérations, c'est plusieurs dizaines de milliers de militants. Et donc, quand il y a une ou deux personnes qui s'en vont, je suis particulièrement surpris que ce soit un vent qui secoue le parti. Vous prenez beaucoup de partis politiques au Togo, régulièrement, il y a des gens qui démissionnent. Parfois, il y a des gens qui démissionnent, qui reviennent. Souvent, quand on démissionne, tout le monde en parle. Quand les gens reviennent, personne n'en parle. Donc voilà, c'est pas un vent de... Il y a eu deux personnes qui ont démissionné.
Donc ce qui veut dire qu'ils peuvent revenir à tout moment.
Écoutez, ils sont partis, ils peuvent revenir à tout moment. C'est vrai, ils ne sont pas exclus. Quand ils sont exclus, là, c'est un peu plus compliqué. Mais là, ils sont partis, ils peuvent revenir. Mais honnêtement, deux personnes qui démissionnent dans un parti qui a plusieurs milliers de militants, je ne considère pas que ce soit un vent.
D'accord. Nous avons appris hier que le président de la fédération de l'AV a démissionné aussi hier, je ne sais pas trop.
Pas démissionné. Le président, on va parler certainement de compte pendant l'émission. Le net a pris une position très claire sur la révision constitutionnelle qui est en train de se faire. Et cette position très claire, c'est de demander le retrait pur et simple de ce texte. Et le net aussi, lundi dernier, a fait sortir un communiqué en disant « Nous ne participons pas à la tournée. Les trois députés du net ne participent pas à la tournée. » À partir de là, nous avons un président de fédération qui non seulement participe, là, il n'y a pas de souci, il est en tant que citoyen, mais étant le président de fédération qui sort et qui fait une interview, qui dit que lui, il soutient la mesure qui est en train d'être cours. Ben, nous l'avons suspendue. C'est une question de discipline de parti. Tous les partis font pareil, c'est pour ça que je dis que bon, parfois, on parle vraiment d'une tempête dans un verre d'eau. Parce que bon, dans toute formation politique, quand vous avez un militant, surtout un responsable qui a une attitude qui est à l'opposé de la ligne du parti, vous le suspendez, vous l'écoutez. Et si vous comprenez ses raisons, ben vous les réintégrez. Tout simplement.
Justement, vous parlez alors de votre position par rapport à cette nouvelle constitution. Dites-nous, déjà tout au début, avec même d'ailleurs le vote de cette nouvelle loi à l'Assemblée nationale, et finalement, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à la procédure ou du moins au fond ?
Non, c'est beaucoup plus la procédure. Vous savez, nous avons voté une constitution le 19 mai 2019. Une constitution, ce n'est pas une chemise. On l'expérimente. Tout le monde a applaudi la constitution parce que de mai 2019, parce qu'elle réglait deux contentieux importants qui ont fait des morts, des victimes dans ce pays, des personnes qui sont passées en exil, les élections à deux tours et la limitation de mandat. Tout le monde nous a applaudi par rapport à ça. Là, on n'a pas encore expérimenté cette constitution. On est dans sa quatrième année, c'est peut-être en 2025 qu'on l'aurait expérimenté. Nous disons, ben, expérimentons la constitution qui réglait deux contentieux. Au lieu de mettre en place une nouvelle constitution qui réintroduit les contentieux que nous avons corrigé en 2019. C'est très simple. Et nous disons, si vous voulez changer de constitution, il y a trois étapes. La première, c'est la consultation. La consultation la plus large possible. Les acteurs politiques, la société civile, les syndicats, le patronat, les religieux. Vous consultez tout le monde pour savoir si en réalité les Togolais veulent une nouvelle constitution. Après, vous mettez en place une assemblée constituante qui fait une proposition. Cette proposition, une fois qu'elle a été retenue, que ce soit par l'Assemblée ou le président de la République, va être diffusée. Et une fois qu'elle est diffusée, elle est adoptée par référendum. Je note que les quatre républiques du Togo ont toujours été adoptées par référendum. Donc pour le moment, nous ne rentrons pas dans le vif du sujet pour savoir si le régime parlementaire ou présidentiel est bon ou pas. La vérité, c'est que ce n'est pas le régime qui est bon ou mauvais. C'est la gouvernance qu'on fait derrière. Aujourd'hui, nous découvrons subitement que le régime présidentiel, que tout le monde a défendu pendant 20 ans ou bien 30 ans, ben subitement qu'il est mauvais. Mais beaucoup de pays tout autour de nous qui se développent, c'est avec ce régime-là. Il y a des pays qui se développent avec le régime parlementaire, il y a des pays qui se développent avec le régime présidentiel. La question n'est pas un problème de régime. La question, c'est une question de gouvernance qu'on mettait derrière. Voilà. Donc, notre position a toujours été de dire, le moment, nous n'avons pas encore fini d'expérimenter la constitution révisée en mai 2019, mettons 10, 15, 20 ans pour l'expérimenter. Ensuite, si on voit ces insuffisances, nous pouvons éventuellement, en adoptant les trois étapes que j'ai précitées, passer à une prochaine et à une prochaine république. Moi, ça ne me gêne pas.
Quand vous dites alors subitement, puisque vous l'avez utilisé maintenant, par rapport au fait que alors là, vous êtes devant alors cette nouvelle constitution, alors au niveau alors de l'Assemblée nationale, comment ça s'est passé jusqu'à ce que vous n'ayez cette nouvelle loi?
Non, mais vous savez, l'article 144 précise qu'on peut faire une révision constitutionnelle. Vous savez, le vrai problème, c'est que notre constitution actuelle a des petites failles qui ne sont pas comblées. Parce que quand on parle de révision constitutionnelle, est-ce que c'est juste révisé ou modifié? Ça ne le dit pas. Donc aujourd'hui, je l'ai dit, les quatre premières républiques ont toujours été faites par référendum. Donc l'article 144 dit qu'un cinquième des députés peut faire une proposition de révision constitutionnelle. Ce qui est le cas, puisqu'on a, je pense, 21 députés au lieu de 19. Et qu'après, quand on introduit une proposition de constitution à l'Assemblée nationale, c'est une ouria qui est connue. Hein. Il y a une commission à laquelle on affecte dans cette révision, en l'occurrence la commission des lois, qui fait l'étude donc de fond et l'étude particulière, qui fait un rapport. Le rapport, il est présenté en plénière. Si les 4/5 des députés votent, c'est une nouvelle constitution. Et puis voilà, donc, par rapport à la procédure parlementaire, la proposition qui a été faite a suivi le cheminement ordinaire de la procédure parlementaire jusqu'à l'adoption le 25 mars dernier.
D'accord. Francisco, c'est vrai que vous avez titré sur le sujet aujourd'hui, votre journal, alors Tampa Express, vous avez titré à la une alors de votre journal, une cinquième république au pied d'argile, acte à l'escroquerie politique, la goutte d'eau qui va faire déborder le Togo. Alors, aujourd'hui, quelle interprétation vous faites alors même d'ailleurs de ces de cet article ou du moins de ce titre?
Oui, tout d'abord, le rural député Félicitations pour votre position qui est claire. Vous avez bien défini les modalités pour pouvoir faire une révision constitutionnelle. Et ben, la réécriture d'une constitution, nouvelle constitution n'est pas dans nos tests. Et j'ai entendu même un ministre juriste dire qu'il s'agit d'une révision générale sur une chaîne internationale, peut-être une invention. Mais ce que vous dites, que les quatre et un cinquième, c'est concurremment avec le chef de l'État.
Non. C'est-à-dire qu'en fait, la révision constitutionnelle appartient soit au président de la République, soit à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le président de la République peut introduire une proposition, un projet plutôt, de révision constitutionnelle. Dans ce cas-là, ça finit absolument par référendum. Ou bien alors, un cinquième des députés. Et si les deux tiers des députés votent pour, ça finit par le référendum. Et si les 4 cinquièmes votent pour, ben, la loi est adoptée. Voilà ce que dit l'article 144. C'est soit le président, soit le truc. Ce n'est pas les deux en même temps. Le président peut faire introduire un projet de révision constitutionnelle ou alors
un cinquième des députés.
Exactement ce que dit.
Oui, Francisco.
Bien. Et vous savez, pour cette nouvelle constitution, vous-même vous l'avez dit, les étapes, et pourquoi vous qui avez été initiateur, parce que
non, je ne fais pas partie de l'initiateur.
Il y a une liste qui a circulé.
Ah oui, non, je ne fais pas partie.
On a vu le nom de M. Diritama.
Non, du tout. Vous confondez avec la liste qui a circulé sur les membres de la commission.
Non, ça aussi.
Sinon, parmi les initiateurs, non, pas du tout. Vous confondez. Je n'ai jamais été associé aux initiateurs. Ben, écoutez, monsieur, je n'ai pas retenu votre nom.
Francisco.
Monsieur Francisco, je ne peux pas être initiateur d'un texte et demander son retrait.
Ok.
Ça n'a pas de sens.
Merci encore. Ouais. Bon, maintenant, le test qui fait objet de la 5e République, ça est où?
Non, ben écoutez, vous savez, là aussi, comment se passe la procédure? Une fois que les députés ont adopté la loi, elle est promulguée par le président de la République dans les 15 jours, diffusée au niveau du journal officiel. C'est quand elle est publiée au niveau du journal officiel qu'elle devient officiellement loi de la République. Donc, pour le moment, le président de la République ayant demandé une deuxième lecture, ben, cette loi n'est pas encore du domaine public. C'est ça le malheur. C'est-à-dire que pour le moment, la loi, vous avez même vu que sur la TVT, on a vu des ministres qui ont dit ouvertement qu'ils n'ont pas encore vu la loi. Parce que tant que le texte n'est pas encore promulgué et publié au journal officiel, il n'est pas encore de domaine public. Donc voilà, c'est-à-dire que moi, par exemple, en tant que député qui est assisté, j'ai le texte, mais les règles, par exemple, parlementaires ne me permettent pas de le diffuser parce que il revient à l'Assemblée nationale, ensuite au président de la République, et pour finir, au journal officiel de le diffuser. Une fois qu'il est diffusé dans le journal officiel, ben, tout le monde peut s'en acquérir et puis faire.
Alors, monsieur le député, quand vous dites que vous avez eu le test déjà lors du vote ou de l'adoption même d'ailleurs
à partir de la commission, je suis de la commission.
Voilà, concrètement, qu'est-ce qui est l'avantage alors de ce qui est proposé?
Je vous ai dit tout à l'heure quelque chose, que fondamentalement, il n'y a pas d'avantage ou d'inconvénient des régimes parlementaires, des régimes politiques. Aujourd'hui, ben, les gens, par exemple, qui introduisent le texte disent « Oui, mais ça fait un équilibre. » Ok, d'accord, que donc, on va se passer des élections présidentielles. Mais au même moment, comme inconvénient majeur, c'est que le parti qui reste majoritaire peut rester majoritaire à vie et conserver donc le poste de président du conseil qui devient le chef de l'exécutif. Donc, en réalité, c'est pour ça que je vous parlais du contentieux de qui a duré durant 20 ans. Le contentieux qui consistait aujourd'hui avec la constitution de mai 2019 à limiter les mandats saute avec la nouvelle constitution. Mmh. On peut considérer que quelqu'un peut considérer que c'est un avantage parce que vous avez vu dans beaucoup de régimes parlementaires, comme l'Italie, comme la Belgique, comme l'Allemagne, ben parfois, vous avez des gouvernements qui sautent même 3 ou 4 fois dans l'année parce qu'il suffit tout simplement qu'une nouvelle majorité se forme. Et donc, quelqu'un peut te dire, oui, mais il suffit tout simplement de changer de majorité. Il suffit que l'opposition ait une majorité. Mais si vous considérez que depuis 1994, l'opposition n'a jamais eu de majorité à l'Assemblée, donc vous pouvez aussi à raison dire, ben, écoutez, en révisant cette constitution, nous allons avoir un parti qui va rester à majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Et tant qu'elle a cette majorité, elle conserve l'exécutif. Que le scénario, par exemple, qui vient de se passer au Sénégal ne pourra plus jamais se passer au Togo. Parce que le PASTEF, s'ils étaient dans un régime parlementaire, le PASTEF n'aurait jamais eu de président. parce qu'ils étaient minoritaires à l'Assemblée nationale, mais que la dynamique de l'élection présidentielle permet à quelqu'un qui peut être minoritaire à l'Assemblée nationale, même à quelqu'un qui n'est même pas à l'Assemblée nationale, de venir gagner l'élection présidentielle. Donc, vous pourrez trouver des aspects positifs et des aspects négatifs à tous les éléments. Mais la chose qu'il faut dire, c'est que, moi je le redis encore, c'est que nous avons, par la constitution de 2019, réglé un consensus, restons là-dedans. Parce que c'est vrai que, ben écoutez, deuxième élément, si vous changez de République, ça veut dire que vous mettez les pendules à zéro. Ben, ça veut dire que, ben, en réalité, personne ne pourra dire éventuellement au président actuel de se présenter, c'est même pas lui, c'est son parti qui le présente à la candidature de président du Conseil. Ça, par exemple, c'est un inconvénient dans un pays où nous avons lutté depuis longtemps pour dire limitation de mandat élection en deux tours. Donc, moi, je le dis carrément, il n'y a pas de régime présidentiel et de régime politique qui soit meilleur que l'autre. Il y a juste de la gouvernance qui est bien ou mauvaise. Est-ce qu'aujourd'hui, le régime parlementaire va régler tous les problèmes qu'on a? Les problèmes d'électricité, les problèmes de non-proclamation des résultats des concours, les problèmes de chômage qui aujourd'hui prennent près de 40 ou à 45% de la population togolaise. Je ne le crois pas. Est-ce que le régime parlementaire va créer subitement un miracle et demain on va avoir 4 000 milliards de budget? Je ne le crois pas. Qu'est-ce qui fondamentalement, en dehors de quelques avantages qu'on nous présente, va changer pour nous demain? Est-ce que demain on aura plus d'emplois avec le régime parlementaire? J'en doute.
Est-ce que vous avez l'impression que ceux qui ont initié ce projet ont un agenda caché?
Vous savez, moi, je fais pas de, je donne pas des préjugés sur les gens. Moi, j'ai pas compris subitement parce que les gens, en présentant le projet, nous avaient dit oui, mais ça répond aux aspirations du peuple. Avant qu'on ne commence l'étude de ce texte, je n'ai vu nulle part des gens rassemblés pour dire mais qu'est-ce que vous avez envie de faire. Mais finalement, on l'a fait même à rebousse-poil. On l'a fait que cette semaine d'ailleurs. Donc, bon, voilà. Maintenant, est-ce que est-ce que les gens ont des agendas? J'en sais rien. Mais ce qu'il faut particulièrement noter, c'est que la démocratie et le droit sont vicieux. Sont vicieux. Parce qu'aujourd'hui, cette révision-là peut passer sans être illégale. C'est ça le problème. Le seul moment où il y a une question de constitutionnalité, c'est l'article 59.2. Mais cet article 59.2, la seule personne qui peut révéler l'irréalité, c'est la Cour constitutionnelle. Et il faut savoir que, de toute façon, un texte constitutionnel est déféré automatiquement. Moi, j'entends les gens dire, ben, écoutez, faites des saisines. Non, il est déféré automatiquement, une fois qu'il est voté, à la Cour constitutionnelle, qui va juger de sa constitutionnalité. Et puis après, ça revient et le président promulgue. Donc, le seul moment, c'est éventuellement que la Cour constitutionnelle dise, ok, d'accord. En vertu de l'article 59, le deuxième alinéa de l'article 59, ben nous considérons que cette révision est anticonstitutionnelle. C'est tout. Sinon, vous allez faire, je l'ai dit tout à l'heure, article 144, hein, un cinquième vote et quatre cinquièmes valide.
Et ce qui a encore créé aussi plus de polémiques, c'est par rapport au statut hein, des députés que vous êtes aujourd'hui. D'aucuns disent que déjà en fin de mandat, vous ne pouvez plus alors changer, même d'ailleurs jusqu'à changer la loi fondamentale du pays.
Vous savez, les sources du droit, c'est la part la plus patente, la lettre et l'esprit. Et il y a une deuxième source, c'est la jurisprudence. Aujourd'hui, vous aurez du mal a dit que les députés qui sont actuellement là n'ont pas de légitimité quand vous considérez qu'en 2007, en 2012 et en 2018, on n'a jamais fait les élections à temps et que les assemblées de ces trois législatures-là ont débordé et ont continué à légiférer. C'est ça le vrai problème. En 2007, on n'a pas fait les élections à temps. En 2013, on n'a pas fait les élections. On devait faire les élections en 2012. On l'a fait en 2013. Et les assemblées qui étaient à l'époque ont légiféré, ont pris des décisions.
Mais ils n'ont pas changé quand même la Constitution.
Maintenant, vous êtes en train de faire une interprétation. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que notre Constitution actuelle, bah, la prochaine, elle aura encore beaucoup plus d'insuffisances. Logiquement, il aurait fallu tout simplement que dans le 11e alinéa de l'article 52, il soit précisé que pendant, on dit, les députés restent en poste jusqu'à la prise de fonction de leur emplacement, il aurait juste ajouté un petit truc. Pendant cette période, ils ne légifèrent pas. Point. Et nous n'aurons pas ce problème-là. Parce que si les députés ne légifèrent pas, le gouvernement peut prendre par ordonnance des décisions relevantes de la loi. Tout simplement. Mais à partir du moment où ça n'existe pas, ben c'est un petit trou dans lequel les juristes sont des malins. Ils s'engouffrent. Dernier élément. L'Assemblée nationale actuelle, a pris en janvier dernier une loi sur le nombre de députés. On est passé d'homme de 91 à 93. C'est un piège qui a été tendu à tout le monde.
Oui.
Parce que aujourd'hui, tous les partis politiques qui contestent la légitimité de l'Assemblée nationale sont allés déposer leur candidature sur la base de la loi qui a été adoptée au mois de janvier. Comment on dit ça? Comment on fait ça? Parce que vous, si vous contestez la légitimité de l'Assemblée nationale, ben dans ce cas-là, excusez-moi du peu, ben vous refusez d'exécuter une loi qui a été votée par cette Assemblée nationale. Ça, vous comprenez? Donc, pour moi, je pense que, je vous l'ai dit tout à l'heure, le droit est vicieux. Et quand on veut faire dire, on peut faire dire une chose et son contraire au droit. Tout dépend de l'angle dans lequel on se trouve et tout dépend aussi de l'habileté de ceux qui l'interprètent.
D'accord. Firmez d'abord.
Il va prendre. Comme vous avez lu au moins le texte,
oui.
Semble-t-il qu'il y a un article qui dit que le chef de l'État ou le président du Conseil nomme un certain nombre de sénateurs.
Bon, là
et
aussi.
Après, bon, c'est eux qui vont après les voter. Est-ce non, que. Voilà.
Là aussi, bon, je réponds à ces questions. Et, au fait, c'est une disposition qui était dans notre ancienne constitution qui disait que le président de la République nomme un tiers des sénateurs. Ceux qui ont proposé le texte ont voulu le maintenir. Au départ, nous avons dit, bah, écoutez, le président de la République, qui en réalité, dans le nouveau texte, n'a pas de vrai pouvoir, il a un pouvoir symbolique, il ne peut pas nommer des gens qui vont venir après l'élire. Donc, on a transféré cette compétence-là au président du Conseil. C'est-à-dire que finalement, c'est le président du Conseil qui nomme donc un tiers des députés. Et ce un tiers des députés-là viendront élire le président de la République. Et nous avons dit aussi que c'est une belle aberration parce que dans le régime parlementaire, il n'y a pas d'élu nommé. Dans un régime parlementaire, vous prenez tous les régimes parlementaires qui sont bicaméraux, l'Angleterre, l'Allemagne, tout ça, vous avez une chambre basse et une chambre haute. Mais dans les deux chambres, on a des personnes qui sont élues. Par exemple, en Allemagne, c'est beaucoup plus les gouverneurs, mais qui sont élus à la tête de leurs États, qui appartiennent à la Chambre haute. Mais vous n'avez pas un truc où les gens sont nommés. Au fait, les gens étaient nommés dans le régime semi-présidentiel pour permettre au président éventuellement d'équilibrer certains déséquilibres qu'il y a au niveau du Sénat, sachant que le Sénat a moins de pouvoir que la Chambre basse qui est l'Assemblée nationale. Bon, là, c'est une disposition qui avait été gardée, mais attention, je rappelle qu'il y a une deuxième lecture en cours, donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire des conjectures sur ce qui est passé, parce que ben, si le texte a été... On a demandé une deuxième lecture, c'est sans aucun doute qu'il y a des améliorations qui vont être intégrées. On verra ces améliorations-là, mais pour le moment, je pense que ce n'est pas la bonne forme de commencer à dire oui, ça dit ça, parce qu'il y a une deuxième lecture, et la deuxième lecture reprend exactement le même cheminement comme la première lecture, c'est-à-dire qu'elle va passer par la commission des lois avant de passer en plénière.
D'accord. Et Firmin ?
Donc, qu'est-ce que je peux dire ? Puisque c'est ce que le député vient de dire, c'est l'information que tout le monde a. Mais ce qui m'intéresse, c'est par rapport à la légalité. La démarche n'est pas illégale. En s'inspirant bien sûr des dispositions constitutionnelles. Ça, on l'a toujours dit ici, que le droit est vicieux. Et j'ai toujours dit, je l'ai toujours dit ici, qu'en réalité, tant qu'il y a toujours des dispositions relatives aux révisions constitutionnelles, dans les constitutions, ces constitutions sont susceptibles de révision. Donc, il n'y a pas de constitution tangible, il n'y a pas de constitution figée, il n'y a pas de constitution immuable. On l'a dit ici l'autre fois que la constitution française qui a été adoptée en 1958 a été modifiée pendant près de 50 années, a été modifiée plus de 25 fois. Donc, c'est toujours ainsi. Ici, ce qu'on reproche à ceux qui ont initié, ce qu'on reproche au pouvoir en place, c'est quoi? C'est la démarche, c'est la procédure. Et je pense que le pouvoir...
Non, c'est pas le pouvoir en place qui a initié quand même.
Pardon?
C'est pas le pouvoir en place, c'est des députés.
Oui, c'est les députés, c'est un cinquième des députés, ce qui est constitutionnel, ce qui est constitutionnellement vrai. Donc, ceux qui portent le projet en réalité aujourd'hui, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui porte le projet. Et donc, à ce niveau, ce qu'on leur reproche, en réalité, si le chef d'État n'était pas d'accord, peut-être, ça n'allait pas passer. Moi, je pense que si le chef de l'État n'était pas d'accord, peut-être sa majorité n'allait pas voter. Sa majorité, qui est à l'Assemblée nationale, la majorité unie, n'allait pas voter la loi. Donc, moi, je considère que le chef de l'État était d'accord par rapport à l'initiative qui a été prise. Donc, je considère globalement que c'est le pouvoir qui a eu l'initiative, qui porte ce projet-là aujourd'hui. Et le chef de l'État, Il a demandé une deuxième lecture. Ça veut dire que le projet l'intéressait. Et donc, ce qu'on lui reproche au pouvoir, ce qu'on lui reproche, c'est la procédure, c'est la démarche. Le député l'a expliqué directement, l'a expliqué tout à l'heure. C'est la démarche aujourd'hui. Cela est en train d'être corrigé. Mais c'est avec la conclusion de directement que je vais conclure aussi à ce niveau, bon, une conclusion partielle. En réalité, aucune constitution, comme Maître Degui l'a dit, aucune constitution ne construit de ponts, aucune constitution ne construit de grandes bâtisses, aucune constitution ne crée de l'emploi. Ce qui est derrière, c'est la gouvernance qu'on en fait. C'est la bonne foi de tout un chacun. Si ceux qui dirigent veulent bien qu'il y ait une bonne gouvernance, qu'il y ait une transparence, qu'il y ait de la démocratie qui s'applique dans tout le pays et qu'il y ait le bien-être à tous les niveaux, je pense que on l'aura. Le reste, c'est une question de technologie. Et je pense aussi que si on rentre dans cette histoire de technologie ou de droit, on ne va pas s'en sortir. Parce que le droit, comme le député l'a dit, est vicieux. Le droit, il vous embourbille, il vous emballe. Au finish, ce qui compte, c'est la bonne foi et c'est la bonne gouvernance que tout le monde recherche.
D'accord. Nous sommes rejoints, je l'annonçais, que nous serons rejoints entre-temps alors par Dr Foli Ekwigadja. Il est là. Docteur, bonjour.
Bonjour, cher Pascal.
Voilà, vous êtes enseignant, chercheur déjà dans les universités du Togo et aussi politiste. C'est vrai, nous avons cette question de révision constitutionnelle depuis un temps. Tout récemment même d'ailleurs, vous avez animé une conférence autour alors de cette question de révision constitutionnelle. Et finalement, aujourd'hui, quelle est l'appréciation que vous faites alors de la démarche depuis le 25 mars dernier quand cette constitution a été votée et renvoyée alors au chef de l'État et le chef de l'État également qui l'a renvoyée aux députés pour une relecture?
Bon, vous savez, il y a plusieurs considérations. Il y a beaucoup de controverses, même dans le corps des universitaires. Et si vous prenez par exemple la faculté de droit, l'université de Lomé, et tous ceux qui sont des consultants ou des associés aux différents laboratoires de recherche, sont divisés, si vous voulez, en deux groupes ou deux groupes et demi, et sur la démarche. Même sur la potestat révisionniste, il n'y a aucun débat. Il n'y a pas que le Parlement puisse réviser, l'Assemblée nationale puisse réviser la Constitution. Il n'y a aucun débat là-dessus. Ceux qui évoquent l'article 144 pour dire que l'Assemblée nationale serait en intérim, tout cela n'est pas correct. Ni juridiquement, ni sociologiquement, c'est pas le Parlement, l'Assemblée. Les députés ne sont pas en intérim. Ils ne sont pas en intérim. Ils sont en exercice plein de leurs fonctions.
Quand est-ce qu'on dit qu'un député est en intérim?
Donc, en fait, partons de l'intérim. Vous savez, je ne peux pas assumer l'intérim de moi-même. L'intérim renvoie à une impossibilité d'identité physique entre celui dont on assume l'intérim et celui qui assume l'intérim. Si vous assumez l'intérim d'une personne, c'est que la personne physiquement n'est pas là. Comment pouvez-vous expliquer ça? Vraiment, ceci est scolaire. Et je ne comprends même pas pourquoi il y a eu ce débat dans l'opinion publique sur l'intérim. Le député qui est ici présent, il est en fonction. Il assume l'intérim de quel député? De qui? Si il est le même. Donc il n'y a pas d'intérim. Laissons tomber. L'article 144 n'est pas là pour réguler ce genre. L'Assemblée nationale est en droit de faire des révisions jusqu'à une seconde avant que la nouvelle soit installée. Elle peut faire des révisions. Elle peut voter toutes les lois possibles.
Et même toucher la Constitution?
Quand je parle de révision, je m'étends aux révisions de la loi constitutionnelle.
Révision générale.
Bien sûr. L'Assemblée nationale peut réviser jusqu'au moment où on la dépose, c'est-à-dire on la substitue par une autre Assemblée. Vous imaginez un peu le Togo qui est attaqué militairement, guerre interétatique par le Bénin ou le Ghana, aujourd'hui. Hypothèse d'école. Ben, c'est l'Assemblée qui doit autoriser les forces armées togolaises à entrer en guerre. Vous allez leur dire que parce qu'ils sont, leur mandat expiré en janvier, ils ne peuvent pas autoriser l'exécutif à entrer en guerre. Vous voyez, laissons tomber d'abord cette affaire d'autorisation de laquelle si l'Assemblée est légitime à engager des révisions. La réponse est oui. Et tous les juristes sont d'accord là-dessus. Jusqu'à notre contempteur ami, le professeur Topanou, il ne conteste pas la potestat révisionniste de l'Assemblée nationale. Maintenant, si c'est une révision, puisque nous sommes dans une révision, Est-ce que l'Assemblée nationale peut réviser les articles qui, eux-mêmes, demandent à ce qu'on les révise par référendum? La réponse est non. La réponse est non. Si c'est une révision, est-ce qu'une révision peut déboucher à un changement de constitution? La réponse est non. Donc, l'article 59, par exemple, dont il s'agit, le constituant dérivé qu'il est ne peut pas le toucher. Il faut retourner au constituant originaire, qui est le peuple.
C'est-à-dire le peuple.
Voilà. Et le constituant dérivé de 2019, qu'il est lui-même, c'est eux qui ont mis le verrou. C'est-à-dire là, ils disent, non, nous pouvons tout faire, mais ces dispositions, pour le toucher, on doit retourner au constituant originaire. Et donc, nous disons qu'en fait, on n'est pas dans une impasse. Il suffirait que le texte, deuxièmement relu, passe au référendum. Je ne vois même pas où se trouve le problème.
Tout simplement.
D'autant que bientôt, il y a des élections législatives. On peut rapidement, les graphistes sont là, les informaticiens sont là. On peut rapidement, si on veut le faire maintenant, intégrer une fiche de vote référendaire pour ceux qui iront voter dans les urnes. C'est terminé. On questionne le peuple. Maintenant, il y a certains qui ont peur du référendum. Mais moi, je me dis, c'est l'aubaine. C'est la solution.
Mais comment ça? Comment il peut avoir peur alors du référendum?
Parce que on suppose que le peuple à qui l'on donne ce pouvoir de s'exprimer, n'étant pas tout à fait informé sur les dynamiques, peut fausser, n'est-ce pas, peut donner une réponse qui ne correspond pas aux réalités réelles, si vous voulez, la tautologie. Et donc, c'est une crainte en démocratie. Elle a toujours été là. Vous avez vu en France, le peuple a voté non à la Constitution européenne. Mais après, l'Assemblée nationale a fait le forcing parce qu'on a considéré que le peuple... Bon, certains parlent de Chirac, d'autres disent que le peuple
parce
n'est pas... Vous savez, donc...
Le référendum résout tous les problèmes
que nous avons aujourd'hui.
Oui, excusez-moi. Est-ce qu'il ne faut pas faire un travail chez le peuple, c'est-à-dire faire un travail de pédagogie, expliquer alors...
Vous savez, je me demande, les conseillers, ceux qui ont... Lui-même, il est là. Comment est... ont-ils pu penser qu'on pouvait, si c'est une révision, déboucher sur une nouvelle république sans même faire croire au peuple, rien que pour la forme?
On en a parlé, hein. Bon, avant que vous arriviez à ce sujet.
Faire croire au peuple qu'il est consulté. C'est-à-dire, ça, en 2023, nous, Togolais, avec les problèmes qu'on a connus avec la constitution de la 4e République, les contentieux non déclarés sur cette constitution, la fausse... le faux consensus et tous les débats, les problèmes qu'on a eus, on ne peut plus se permettre d'aller à une nouvelle constitution dans le conflit, sans consensus. Normalement, si on suit l'histoire, on devrait l'éviter à tout prix. Donc, le problème ne se pose pas. Je me dis, eux, les députés, lui, je crois qu'il s'est même démarqué, je me demande comment, quel courage il a, quand je suis un peu ses interventions sur YouTube. Mais ce qu'il dit est tout à fait logique. Il faut qu'on explique. Ça passera comme une lettre à la poste. Vous savez, moi, j'ai fait 13 ans en Italie. Et acteur de la vie politique italienne, si vous tapez mon nom sur le Google It, vous verrez. Je connais le régime parlementaire. En tout cas, celui que nous avons, il est très similaire au régime italien, avec sinon quelques particularismes. Mais quand vous prenez la sociologie togolaise, les différentes communautés, les 41 communautés, les 33 communautés majeures, où chacun a des prétentions d'ordre politique. C'est normal qu'un pays pareil finisse en stabilité avec un régime parlementaire. Où toutes les sensibilités sociologiques puissent, n'est-ce pas, à un moment donné, converger pour avoir le droit à la parole. Et puis, nous sommes nombreux et différents. Pour stabiliser un tel pays au plan politique, c'est le parlementarisme complet. C'est le dialogue tout le temps. C'est les discussions tout le temps, sur toutes les lois. Dans le pays lui-même. Et en plus, ce système, au-delà des avantages d'ordre sociologique, nous permet de mieux nous connaître. Parce que nous serons obligés. Vous savez, quand vous prenez, je ne sais pas, un parti dont le fief est Niamtougou, un autre dont le fief est Palimé, ils ont peut-être que deux ou un ou trois ou quatre ou cinq députés comme ça. Ce sera comme ça. Mais ils sont obligés, pour des lois, de parlementer, ou dans le Parlement ou ailleurs. Donc cela va conduire tout le pays. On va dialoguer tellement, et ceux qui aiment le dialogue vont boire du petit lait. Donc, c'est bon le parlementarisme. Au fond, c'est pas mauvais. Donc, si on explique bien au peuple je vous assure que le référendum serait un si massif. Si on explique bien. Et si on résout le problème de l'alternance, la crainte de l'alternance, parce que moi, vous savez, je dis les choses telles que je les pense, parce que la nuit, il faut dormir. Et vous savez, la grande crainte, c'est l'article 59, où les gens ont peur qu'avec le changement brutal, il y aura comme une prorogation tacite ou de fait politique de la gouvernance du pouvoir actuel à l'infini. Je peux leur dire que ceci n'est pas possible. Cela ne viendra pas. Et il y a des éléments très simples pour l'expliquer. Et si on arrive à expliquer au peuple, aux acteurs, que même avec ce système, on peut garantir l'alternance, c'est l'alternance que les gens semblent vouloir aujourd'hui, dans la génération d'aujourd'hui, ils comprendront. Autre chose, les peuples pour lesquels le régime présidentiel fonctionne bien, il y a des peuples qui sont plus ou moins des États-nations. Vous savez, en Centrafrique, c'est le Sango. Tout le monde, c'est le Sango. Et les peuples sont plus ou moins unis. Au Sénégal, c'est le Wolof. 0, quelque chose, c'est pas pour cent, 1% de CRR. Ces pays-là peuvent faire des États-nations et ils ont besoin d'un chef, un présidentiel qui gouverne comme ça. Mais nous, nos réalités, telles que le Togo a été créé, par d'abord les Allemands, ensuite les Français, et les problèmes que nous avons vous savez, il faut qu'on aille vers un système politique qui permette à tout le monde de parler. Vous vous souvenez de Tipi Hatsadam, de comment les thèmes se sont vus plus représentés par le PNP que par l'opposition classique. Parce qu'ils se sont dit maintenant, c'est un de nos frères qui nous représente. Et ce n'est pas un relent avec lequel il faut blaguer. Tout le monde a ça un peu, disons la vérité. Donc, remarquez bien que les partis politiques même naissent des fiefs. Et les fiefs sont liés à des groupes communautés, à des communautés. Si vous voulez, des ethnies. Et vous remarquerez que les états-majors de ces fiefs, de ces partis politiques, sont ceinturés par des majorités de personnes qui descendent de ces fiefs. C'est un relent naturel africain. On se sent en famille quand on est proche de ceux avec qui on parle la même langue. Donc, pour stabiliser un tel pays politiquement, pourquoi devrions avoir nous peur de faire un peu du parlementarisme? Je vous rappelle que en 60, du 27 avril 60, et je m'arrête ici. Oui. Je sens que vous voulez me prendre la parole.
Mais
vous
m'avez invité pour non, allez-y, allez-y.
Allez-y. Du 27 avril 60 au 9 avril 61, nous avons connu une courte période de parlementarisme où des experts, je le disais tantôt, les experts français qui étaient venus à Lomé, les parlementaires européens, ils ont été invités au Parlement, à l'Assemblée nationale. Ils étaient ébahis de voir comment il y a la liberté au Togo. Les gens parlaient. On insultait le chef de l'État partout au Togo, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que le chef de l'État, avec la constitution du 9 avril 61, va faire basculer le pays en régime présidentiel. Parce qu'il craignait que cette large liberté pourrait déstabiliser son pouvoir. Donc on a eu cette expérience. Et ceux qui étaient du PTP, qui étaient dans l'Assemblée, reprenez les archives de l'Assemblée, c'est à Lomé. Mais les gens discutaient beaucoup sur les lois, ils votaient, ils s'entendaient. Et c'est les politiques qui voulaient faire un coup d'État avec l'aide de l'étranger. Mais au fond, nous serons plus à l'aise avec un système où le dialogue est permanent. Demandez à l'honorable directement si le cadre de concertation qui a été mis en place après les réformes de 2019 n'a pas aidé, n'a pas beaucoup contribué à la pacification de la vie politique, du fait que les partis politiques, à travers leurs leaders, puissent et avaient la possibilité de se parler. Et un dernier élément qui nous conforte dans le choix, qui pourrait aller dans le sens du choix parlementaire, c'est que quand vous avez un régime parlementaire comme celui que nous avons, que nous aurons, si le peuple dira oui, moi je le dis d'avance, je dis que la meilleure solution pour créer la paix sociale au Togo, c'est d'élargir les concertations, de passer par un référendum. Mmh. La vie est longue, on le fera, mais c'est que la présidence de la République ne peut plus gérer à elle seule la politique étrangère. La politique étrangère qui est une tension chez nous en Afrique, parce que nous sommes sortis du colonialisme. Et nos accords que nous signons avec l'étranger, nos accords commerciaux, politiques, sont pilotés par l'étranger. Ces potestats reviennent au Parlement, parce que c'est le Premier ministre qui gère la politique étrangère. C'est vrai qu'il y a une nuance entre les compétences, mais ça protège le pays. On ne peut plus, nous ne pouvons plus nous retrouver devant des accords internationaux signés dont on ne connaît rien. Le président Nassim Beya Demo, il a pris un accord avec Hollis,
sur le Togo.
Pascal, nous ne sommes pas des spectateurs. Le... Non, Pascal, il faut.
Mais non,
je laisse la parole sans conclure. En termes guise de prévention des conflits.
D'accord, ok, merci beaucoup. Oui, Francisco, vous avez une question.
Donnez au député.
Non, mais bon, non. Là, c'est... Non, moi, je veux dire une chose, parce que ben, j'ai l'impression beaucoup plus que, ben, en fait, nous sommes venus pour vendre un projet. Parce que si j'ai deux observations à dire, ce que M. Foligade a dit. Le premier, c'est qu'attention, quand on dit régime semi-présidentiel, en réalité, c'est régime semi-parlementaire. Ce que le régime qu'a mis en place les quatre constitutions, ben, on va dire les trois dernières constitutions, c'est des régimes semi-présidentiels parlementaires. Aujourd'hui, si vous ne dominez pas l'Assemblée nationale et que vous êtes au pouvoir, vous ne pouvez pas gouverner. Pour une raison très simple, c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois. L'exécutif les applique. Donc si vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale, vous ne gouvernez pas. Parce que là, c'est, il ne faut pas nous donner l'impression que le régime parlementaire n'était pas une réalité dans notre pays. On avait un régime qui était bicéphale. Un Premier ministre et un Président de la République. Un Premier ministre qui tire sa souveraineté de l'Assemblée nationale et un Premier ministre qui tire sa souveraineté du suffrage universel. Mais attention, nous étions... Ben, monsieur, si vous voulez...
Allez-y,
oui, mais je ne faisais pas ces mimiques-là, je trouve ça désagréable.
Allez-y.
Voilà. Donc, on a un régime aujourd'hui dans notre pays, si vous ne dominez pas l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas gouverner. Parce que les lois sont votées par l'Assemblée nationale. Il parlait tout à l'heure de la souveraineté par rapport à l'extérieur. Tous les traités internationaux sont ratifiés par l'Assemblée nationale. Tant qu'ils ne sont pas ratifiés, ben, ils ne rentrent pas dans l'ordonnance juridique du pays. Donc nous sommes dans un régime semi-parlementaire qui a ses avantages. En réalité, ben, si le débat parlementaire, que ce soit avec le régime qu'on a aujourd'hui ou le régime qu'on aura demain, ne va pas changer. Il ne changera pas. Parce que le régime semi-parlementaire dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est lui qui fournit les lois. C'est lui qui donne une partie de l'exécutif qui est le Premier ministre. Donc, cette façon de nous vanter, comme si en réalité on était dans un régime, peut-être même, je ne sais pas, de quelle nature, et que c'est maintenant qu'on découvre le régime parlementaire, ce n'est pas vrai.
Ça,
c'est le premier élément. Attendez. Deuxième élément. On nous fait croire que ben, subitement le régime parlementaire ferait une meilleure justice sociale parce que tout le monde sera représenté. Non, les partis politiques aujourd'hui, d'abord, pour le peu que je sache, il y a très peu de partis politiques, contrairement aux années 90, qui étaient implantés géographiquement. Moi, je rappelle, je suis président du NETS, je suis élu dans l'Est Mono, je suis originaire de Sioux. Il y a énormément de partis aujourd'hui, certains, je vous prenais même la Pévon qui est du FDR, il est candidat à Lomé, il n'est pas candidat dans le Vaughan. Donc aujourd'hui, une bonne partie des candidats que vous avez, les implantations géographiques ont explosé. Et c'est une bonne chose. Parce qu'il faut cesser de s'identifier à des régions. Et dernière chose que je voulais dire pour repasser la parole.
Oui, rapidement.
En réalité, il a parlé de l'Italie. La vitalité d'un régime parlementaire, c'est le débat parlementaire. Moi, je sors de 5 ans de débat parlementaire. Je peux vous dire qu'en 5 ans, je ne peux pas compter le nombre de députés qui interviennent à l'Assemblée nationale. C'est ça la vraie réalité. Vous ne pouvez pas faire un régime parlementaire sans des parlementaires. Et donc, les préalables qu'il faut avoir, c'est de s'assurer que vous avez des gens qui portent le débat parlementaire à l'Assemblée nationale, qui ont ressources pour aller faire tantôt des enquêtes, des investigations, qui ont les ressources pour jouer pleinement leur rôle. Sinon, vous allez mettre demain 113 députés, et vous aurez beaucoup d'entre vous, journalistes, ou venez à l'Assemblée nationale, et vous aurez peut-être une dizaine de personnes qui portent le débat parlementaire. Donc, pour moi, je voulais dire en début de... Je vais conclure là-dessus.
Oui, rapidement.
Je voulais dire en début de, d'émission ici, il n'y a pas de bon ou de mauvais régime politique. C'est ce qui est derrière, qui détermine les succès politiques de ce régime-là.
D'accord.
C'est
tout. Merci beaucoup. Oui, Fémé.
Non, moi, je voudrais dire que, vous savez, la constitution togolaise de 92, parce que l'honorable député directement a dit tout à l'heure que l'actuelle constitution, c'est un régime semi-présidentiel et semi-parlementaire. Moi, je voudrais faire observer que, en réalité, il ne faut pas que... Pourquoi on embrouille les gens ? C'est-à-dire, il faut savoir qu'il y a trois régimes fondamentaux. Le premier, c'est le régime présidentiel. C'est un régime dans lequel il y a une séparation stricte des pouvoirs. C'est aux États-Unis. Mais on sait que dans la pratique, il y a des possibilités de collaboration. Le second régime, c'est un régime semi-présidentiel. Dans ce régime, il y a les pouvoirs qui s'équilibrent un peu entre le président de la République et le Premier ministre. C'est ce que nous avons en France. C'est l'exemple type. Et François Hollande, dans son livre Les leçons du pouvoir, dit qu'en réalité, il y a assez de lacunes dans ce système de semi-présidentiel parce qu'on ne sait pas, en fait, qui a véritablement le pouvoir. Parce qu'il y a l'article 20 de la Constitution française qui dit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Alors que celui qui est comptable devant le peuple, c'est le président de la République. Maintenant, nous arrivons au niveau du régime parlementaire. Le régime parlementaire, c'est un régime dans lequel la direction des affaires publiques appartient au chef de l'État par l'intermédiaire du cabinet, seul responsable devant le Parlement. Dans ce régime, fondamentalement, ce qu'il y a, fondamentalement, c'est quoi? On dit le président de la République nomme Premier ministre, chef du parti majoritaire. Mais c'est là où je viens au Togo. Quand on voit un peu la Constitution de 1992, version originelle, on dit le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
Oui.
Et dans cette Constitution, le président de la République nomme Premier ministre, chef du parti majoritaire. Or, dans la version modifiée, maintenant, on ajoute sous l'autorité du président de la République. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Et dans ce cas aussi, le parlementarisme, le semi-parlementarisme a presque disparu. Parce que dans cette constitution, le président de la République nomme le Premier ministre. Ça veut dire, à l'issue des législatives, le Premier ministre, il peut ne pas être de la majorité. Le président de la République peut aller nommer, chercher un mécanicien et le nommer Premier ministre. Sans tenir compte des résultats des législatives. Maintenant.
Mais comment les lois vont passer après?
Oui, non, c'est ça. Non, moi, j'explique comment ça se passe.
Oui, comment ça se passe? Oui.
Attendez, par exemple. Parce qu'il faut qu'on arrive à expliquer ça. C'est ça le vrai problème. Dans la version originelle, le président de la République nomme Premier ministre, chef du parti majoritaire. C'est ça le parlementarisme. Maintenant, dans la version modifiée, le président de la République nomme le Premier ministre. Ça veut dire qu'à l'issue de la législative, le président de la République n'est plus tenu de nommer Premier ministre, chef du parti majoritaire. Il peut aller chercher un mécanicien pour le nommer Premier ministre. Il peut faire abstraction des résultats des législatives. C'est ça qu'il faut qu'on explique. Je pense que l'avantage de ce qui est proposé, c'est qu'aujourd'hui, à l'issue de la législative, le président de la République va nommer Premier ministre, chef du parti majoritaire. Ça veut dire le parlementarisme de la version originelle.
C'est même pas ce que dit l'actuel de ce truc.
Oui,
tu
vois
les chaises devant les
bureaux. Filmer,
non, je ne veux pas commencer. Moi, je parle du parlementarisme.
Je parle du parlementarisme.
Je n'ai pas vu le fond de ce test. Et je dis avec. Si le régime parlementaire, tel qu'on l'a enseigné, est proposé, si c'est le même régime parlementaire, le président de la République, le nouveau ou le prochain, va nommer Premier ministre, chef du parti majoritaire. Et je pense que c'est une partie de la Constitution, la version originelle de 1992, qui va revenir.
D'accord, ok. Francisco ?
Oui, vous savez, et Monsieur Firmin, il ne faut pas parler de ce que vous n'avez pas vu, ce que vous n'avez pas lu. Même le docteur.
Non, j'ai lu j'ai beaucoup lu.
Je ne connais pas le vrai test.
Non, j'ai beaucoup lu sur le régime parlementaire. Oui. Moi, j'explique de façon générale.
Oui.
Je ne parle pas du fond de ce qui est proposé parce que je n'ai pas vu le fond. Oui. Et vous avez vu que j'ai parlé des trois régimes. Moi, j'essaie d'expliquer un peu à ceux qui nous écoutent.
D'accord,
pour
oui, c'est
que,
bien. Oui.
Pour que personne.
On laisse Francisco. Oui.
Le docteur Kouigada vient de nous enseigner le parlementarisme à l'italien. Mais il y a des réalités italiennes qui ne sont pas nos réalités. L'Italie est loin en matière de ce qu'on appelle découpage électoral, les réalités et, disons, le respect de la vie démocratique. D'accord ? Donc, on ne va pas ramener ça au Togo où on a déjà même un fichier, sinon un découpage électoral faux, un fichier électoral erroné et tout, sans base démocratique. On dit qu'on va à un régime parlementaire. Il a parlé de l'Italie. L'Italie a des régions autonomes, tout comme l'Allemagne. Ils ont des régions autonomes qui dépendent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, nous avons tout un État centralisé. Le député Tamal l'a dit tout à l'heure. Quand vous prenez ce que nous avons comme constitution aujourd'hui, tout ce qu'on demande, c'est la bonne gouvernance. Tout ce qu'on demande, c'est la volonté des dirigeants
de faire face aux réels problèmes, combattre la corruption. En quoi un nouveau régime, une cinquième république, va par baguette magique nous résoudre ces problèmes? Non. Donc, on parle des choses, et les gens parlent de... Quand on dit intérimaire, les gens disent... La loi dit quoi? La loi dit que les élections doivent avoir lieu un mois avant la fin du mandat. Nous étions au 30 novembre. On n'a pas eu à faire comment vous l'appelez? Les élections.
Les élections.
Personne ne nous explique pourquoi on n'a pas pu faire les élections.
Et pourtant, le chef de l'État avait annoncé en 2023 que ce serait l'année alors
oui,
que des élections.
Pourquoi ça n'a pas été fait? D'abord, un coup d'État là-bas. Oui, les députés n'ont pas respecté le délai. Puisqu'on dit élu, ce n'est pas qui va être élu. Donc, si les gens prennent, par exemple, les jurisprudences fâcheuses sous forme d'escroquerie pour justifier ce qui se passe maintenant, ce n'est pas normal. C'est comme vous avez volé hier, on ne vous a pas attrapé. Et comme vous volez encore aujourd'hui, vous dites que oui, parce que vous avez l'habitude de voler. D'accord. Non, il faut que les gens... On doit respecter les tests qu'on se donne.
D'accord.
C'est la première des personnes. Sinon, on peut changer, on peut changer mille régimes. On peut descendre Dieu pour être à la tête si nous n'avons pas la volonté de respecter les tests que nous nous donnons.
D'accord.
C'est que nous irons toujours...
D'accord, merci beaucoup. Docteur Gada, c'est vrai que beaucoup de gens se disent que le régime parlementaire pourra apporter la stabilité. Les initiateurs même d'ailleurs de ce projet le disent d'ailleurs. En quoi on peut avoir la stabilité en matière alors de régime ou en appliquant le régime parlementaire?
Oui, c'est les implications du dialogue politique. Et il y aura comme une transformation de la société. Parce que tout le circuit, le système politique va changer. D'abord, on aura plus de représentation des forces sociales qui ne sont pas grandes, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Elles seront plus représentées.
Comment?
En plus.
Comment? Non, mais je pose une question.
Rien qu'à travers une loi électorale qui soit créée sur du proportionnel. Et dans le régime parlementaire, vous avez différentes variantes des lois proportionnelles, c'est-à-dire des lois électorales, de différents types de proportionnels. C'est une ingénierie qui est complexe, mais qui est très simple. Alors, moi, je dis ceci. Le régime parlementaire en soi n'est pas mauvais. Lorsque le texte sera disponible, on pourra débattre sur le fond. Les équilibres institutionnels, c'est une autre phase. Mais aller vers un régime parlementaire pour le Togo, vous savez, avant même décembre 2028, les étudiants qui m'ont suivi à l'ENA depuis 2 ans, quand nous parlons de la démocratie parlementaire, ils peuvent témoigner, j'ai toujours défendu le fait qu'au Togo, par exemple, on pourrait être plus stable politiquement avec un régime parlementaire. Vraiment, purement parlementaire. Donc, lorsque j'ai eu la nouvelle, je me suis dit, waouh, quelque chose peut-être est en train de venir. Mais c'est après avoir compris la démarche que je me suis dit, non, il y a un hic.
D'accord.
La démarche pour arriver vers ce truc, ce régime, pose un problème de constitutionnalité. Il y a des articles dont nous venons de parler. Et aussi un problème politique, parce qu'il faut retourner aux constituants originaires pour arriver à ce niveau de changement du système politique.
Voilà. D'accord. Monsieur Diritama, est-ce que vous avez aussi la même appréhension des choses? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura la stabilité avec...
Fondamentalement, je l'ai dit, moi je n'ai rien contre le régime parlementaire. En réalité, c'est ce qu'on en fait. Disons les choses que nous manquons. Depuis 1994, nous avons un seul parti au pouvoir qui est majorité à l'Assemblée nationale. C'est le parti aujourd'hui, à l'époque c'était RPT, aujourd'hui c'est UNIR. Depuis 1994, parce que les élections de législatives de 1993 avaient donné un duo. Et après, quand quelques députés du CARA ont démissionné, à l'époque le RPT a tout pris et est devenu majorité. Depuis qu'ils ont pris cette majorité, ils ne l'ont jamais perdu. Donc quand vous parlez de stabilité, ça veut dire tout simplement que, supposons qu'on reste dans la même dynamique. Ça veut dire que dans les 40 ans qui arrivent, le parti qui est aujourd'hui au pouvoir peut toujours continuer à rester au pouvoir. Et tant que, parce que c'est ça la subtilité du régime parlementaire, c'est bon ou c'est mauvais, honnêtement, c'est pas la question. Tant qu'un parti reste majoritaire à l'Assemblée, en réalité, il conserve le pouvoir. Et je vais vous donner un exemple. Je prends l'exemple du Japon. Le Japon, ça fait près de 90 ans que le parti républicain, le Japon est un régime parlementaire. Ça fait près de 90 ans que le parti républicain est au pouvoir. On ne peut pas dire que le Japon n'est pas une démocratie. Donc, sur les implications, aujourd'hui, on pourra toujours dire oui, c'est le peuple qui a choisi ses députés et les députés sont allés choisir leur représentant qui est la tête de l'exécutif, qui est le premier ministre ou bien le président du conseil. Au Togo, on parlait du président du conseil. Moi, ce que j'ai dit tout à l'heure en début des émissions, c'est qu'il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que est-ce que vous êtes sûr que, avec la, par exemple, le code électoral qu'on a aujourd'hui, on est monté à 113 députés. Est-ce que vous êtes sûr que demain, il y a un risque ou bien une possibilité que la partie de l'opposition se retrouve avec 25, 30 ou 40 voire 60 députés pour matérialiser une alternance? Moi, en tout cas, sur le court terme, je ne le crois pas. C'est mon opinion, je me trompe peut-être, mais sur le court terme, je ne le crois pas. Par rapport, je suis politicien, je suis sur le terrain tous les jours. Aujourd'hui, pour les élections qui sont en train d'arriver, nous sommes le troisième parti politique en termes de candidats sur le terrain. Je ne le crois pas. Parce que les ressources financières, l'occupation du terrain, les moyens, il y a un abysse entre les partis au pouvoir et les partis de l'opposition. Donc je ne le crois pas. Je ne crois pas que cette dynamique. Parce qu'en fait, en réalité, quand on parle avec les autres pays, ben, la réalité ne sont pas les mêmes. Dans beaucoup d'autres pays, vous avez vos fonds de campagne qui sont remboursés intégralement. Donc vous pouvez aller faire des prêts. Et l'État met en place un cachet qui est le même pour tous les partis. Et qui fait que tout parti qui dépasse, même vous avez vu le cas de la France, tout parti qui dépasse ce gap-là, automatiquement rappelé à l'ordre. Nous n'avons pas cet équilibre-là dans nos pays. Donc, il y a l'esprit et la lettre. Et sur la lettre, oui, ben, à la limite, mais dans l'esprit, non. Aujourd'hui, vous avez combien de partis politiques qui peuvent déployer même ne serait-ce que 30 millions, 40 millions pour faire la campagne. Vous avez vu qu'on a augmenté la pression, que les partis ont commencé, c'était même un grand parti comme l'ANC, vous pensez qu'ils sont contents de demander aux populations de les aider? C'est parce qu'on n'a pas les ressources. Donc, on ne peut pas parler de démocratie sans mettre en place les règles d'équilibre qu'il y a dans les pays qu'on cite en exemple. C'est pour ça que parfois, malheureusement, dans beaucoup de pays africains, nous avons des démocraties de façade. C'est-à-dire qu'on a tous les éléments, mais ben, en fait, ça procède, ça va dans un seul sens. C'est ça le problème. Selon moi, je n'ai absolument rien contre le régime parlementaire.
D'accord.
Nous sommes tant centristes, le régime parlementaire, c'est une bonne chose. À la seule condition qu'il imprime une dynamique au niveau de l'Assemblée, au niveau de tous les mouvements. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez tout dire. Demain, on commence la campagne là. Vous allez voir, la plupart des partis politiques de l'opposition, ils ne sont pas là. Parce que, je vais dire une dernière chose avant de passer le témoin. On a mis en place, depuis 2015, un élément qui s'appelle la pré-campagne, les financements de pré-campagne. Pourquoi on l'a mis? Parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des partis de l'opposition sont complètement démunis.
Ils n'ont pas assez de moyens.
Ils n'ont pas les moyens. Et on a mis... Attendez que je finisse. On a mis en place cette affaire de pré-campagne. Moi, j'étais candidat en 2015 à la présidentielle. Et je peux dire que j'ai pu faire une bonne campagne parce que j'ai eu son 12 millions. Ça m'a permis quand même d'être présent, de mettre des panneaux, machin, truc. Aujourd'hui, nous sommes avec la campagne, les préfinancements ne sont pas encore sortis pour les partis. Nous sommes vendredi.
D'accord.
Donc, comment, où est le fair play dont on parle? C'est ça, en fait, le vrai problème.
D'accord.
Le fair play, sans fair play, vous ne pouvez pas mettre en place une politique inclusive.
Francisco?
Non, c'est clair que ce qui est en train de se faire, on était là-dedans depuis. S'il n'y a pas, c'est le non seulement on change et dans l'intérêt de changer une nouvelle république. Mais M. Tama, même dans cette ancienne constitution, qu'est-ce qui se passe? On avait dit que les députés sont élus pour un mandat de 6 ans renouvelable une seule fois.
Non, on a dit renouvelable 6 ans renouvelable. Non, on n'a pas dit renouvelable une seule fois. On a dit que les députés sont élus pour un mandat de 6 ans renouvelable 2 fois.
Oui,
sauf que, ayant été élu en janvier 2019, puisque la rentrée de plein droit était le 8, donc logiquement, cette limitation ne s'appliquait pas au mandat en cours. Ça serait appliqué au prochain mandat. Donc, ça veut dire qu'en réalité, si on n'a pas changé, on n'était pas en train de vouloir changer la constitution.
Mais il y a des gens qui avaient déjà fait deux mandats à l'Assemblée. Donc, ça veut dire que ça mettait le compteur à zéro.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'appliquerait éventuellement. Puisque la loi dispose pour l'avenir. Donc, si par exemple, quelqu'un avait fait déjà 2 mandats, ben, au fait, ces 2 mandats-là ne sont pas pris en compte. Ça prend effet à partir de la mise de l'entrée en vigueur de la loi. Mais bon,
vous voyez que cette constitution de la 4e République révisée, et ça, c'est une félicitation que je vous adresse.
Merci,
et tous les députés de cette mandature,
oui, moi, je pense
au moins d'avoir eu cette initiative-là, d'introduire ce qu'on appelle la limitation des mandats, également même la limitation des mandats des députés. Et il faut l'expérimenter. C'est ça même la stabilité. Ce n'est pas changer de constitution, puisque là où nous sommes, personne ne se bat, personne ne se tape.
Il y a Vous avez le boulevard libre, vous gouvernez, vos ministres sont là, vos députés sont là, le président c'est vous, le premier ministre, la Cour constitutionnelle, tout est inféodé au pouvoir. En quoi, aujourd'hui, cette nouvelle constitution va remettre tout ça là et à plat? C'est un faux problème.
D'accord, docteur Gada.
Je vais essayer de répondre un peu à cette question. Vous voyez, en 2019, la réforme constitutionnelle qu'on a connue n'a pas été faite ex nihilo. C'est pour répondre à la crise de 2017.
Tout à fait.
Crise qui était l'expression d'un ras-le-bol que le Togo connaissait depuis 2000, depuis l'APG. On attendait les réformes. Moi, je venais d'une formation politique dans laquelle on a beaucoup travaillé sur les réformes.
Je me souviens, on demandait même d'ailleurs le retour à la C92.
Donc, 2019 répondait à une exigence populaire, une exigence globale. Maintenant, si juste en 2023-2024, des députés veulent revoir cette constitution, ce n'est plus la réponse à une exigence populaire cette fois. Ça veut dire qu'il y a des malaises qui ne sont pas d'ordre populaire, qui rendent ou qui pourraient rendre même impraticables les réformes pourtant accouchées avec difficulté en 2019. C'est un reflet de malaise. Vous savez, dans les systèmes politiques,
il n'y a pas que
la difficulté qu'il y avait par rapport à
la. Il n'y a pas que le peuple qui puisse être chrysogène. Il peut y avoir des relents non visibles au niveau du sérail et d'autres éléments qui vont conduire l'autorité à aussi être à l'origine d'une initiative de modification constitutionnelle. Jusque-là, on y est. La démarche, l'Assemblée nationale est-elle légitime pour changer le système politique dans le pays comme ça? C'est là le problème. Le fait de n'être pas retourné aux constituants originaires, c'est là le problème. Sinon, fondamentalement, comme il dit, normalement, on devrait donner un peu de temps à la constitution 2019, la vivre un peu, normalement. Mais si on n'arrive pas à la vivre, parce que en fait, en 2019, il y avait la CEDEAO, il y avait beaucoup, il y a des idées qu'on n'a pas pu intégrer. Vous savez, le constitutionnaliste Fall qui a fait le travail, dont la constitution a été volée dans sa chambre d'hôtel, ce qui a fait qu'il a quitté précipitamment le pays. Je l'ai rencontré à Dakar, il m'a dit plein de choses. En fait, le test 2019 aussi risque de connaître la même fin que la constitution de 92. Faux consensus.
Quels sont les éléments de contestation de cette truc?
Non, à partir du moment où il y a une force dans le pays qui veut toucher encore à cette constitution, ouvrons un débat.
D'accord.
Et ouvrons un débat et profitons pour résoudre les irrésolus de 2019. S'il faut passer à une cinquième république, résolvons tous les problèmes liés à cette quatrième.
D'accord.
Et c'est pour ça que je dis que le référendum, les concertations ouvertes actuellement, la relecture et le référendum seraient une solution pour apaiser tout le monde. Si on ira, le peuple dira. Si on n'ira pas, le peuple dira.
D'accord. Nous sommes déjà talonnés par le temps. Nous allons écouter aussi nos auditeurs, puisqu'ils ont des questions à poser. Nous allons les écouter. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 63 75. Nous insérons le premier auditeur. Allô?
Allô?
Allô, bonjour. Oui, bonjour.
C'est Richard depuis le Danemark.
Ah, Richard, depuis Danemark.
Ouais.
D'accord, allez-y.
Très heureux d'être à l'antenne aujourd'hui parce que ça fait trop longtemps. J'aimerais aussi porter ma voix à la discussion, à la discussion qui se mène ces derniers jours.
Allez-y.
Bonjour, Denis Thomas.
Bonjour.
Franchement, depuis votre entrée à la politique, sincèrement, ceux qui vous connaissent bien, vous allez voir, on saura que vous avez beaucoup changé. Vous voyez, ma politique, moi je dirais, c'est une chance de marmaille. Il faut être plus visé pour gagner. Mais quand vous passez, vous donnez des exemples d'Italie, de France ou autre, je ne sais pas pourquoi vous faites ce choix, ce genre de choix, vous choisissez là où c'est mauvais. Moi, je suis... Allô?
Oui, Richard, allez-y, allez-y rapidement.
Oui, je suis dans un... Je suis à la Scandinavie. Je suis au Danemark. Et que le débat parlementaire vit ici. Vous avez cuisiné une chose depuis de 60 ans. Ce régime présidentiel, pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau? J'ai tellement aimé l'idée du professeur. Sincèrement, si nous avons des gens comme ça autour, on serait très heureux. Il est très intelligent.
Et il est au gouvernement.
Passons à autre chose. Essayons quelque chose. Si ça ne marche pas, on peut toutefois revenir. En Scandinavie, nous vivons seulement sur des régimes parlementaires. Et il n'y a jamais de problème. Je vis ici depuis 6 ans.
D'accord, Richard.
Arrêtez, arrêtons de faire cette marmite de politique.
D'accord, merci beaucoup, Richard. Vous avez été compris. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom c'est?
C'est Alain de Codomé.
Alain depuis Codomé, allez-y.
Vous avez reçu un docteur.
Oui, docteur Ekwe Gadar.
Oui, c'est. J'aimerais lui poser la question de savoir. Vous attendez l'année de 25 qu'on nous sorte une nouvelle constitution que vous venez défendre actuellement. Je suis désolé. Si vous avez cette idée-là pour un régime parlementaire, n'attendez pas que ça dise dans l'année de 25 qu'on nous sorte une nouvelle constitution que vous venez de défendre aujourd'hui. Moi, je suis désolé. Merci.
Merci beaucoup, Alain. 22 21 314 91
36
63
115.
Allô?
Allô?
Oui.
Bonjour.
Bonjour,
Didier. Oui, oui, oui.
Comment vous allez?
Ça, c'est M. Zéritavant qui a l'appareil. En tout cas, merci beaucoup, M. Zéritavant. Bon, moi, je vais répondre à celui qui est diamant. C'est pas seulement lui qui connaît le diamant. Le diamant, c'est à proportionnel vraiment qu'on fait. Les voies perdues se reposent sur les régions et va jusqu'au pays. C'est-à-dire, si vous avez 100 députés, si vous avez 1000 députés, comment on appelle, 10 000 votants, c'est 10 000 vous avez un député, hein, et vous avez 12 000 votants, dans votre situation, on prend les 2000, les 20 restants, les 2000 restants, on vous met sur la région. Donc, c'est un truc égal qui font. C'est sur le plan national que vous allez perdre un. Or, ici, là, même si vous avez 8 000 voix qui sont récentes, c'est perdu. Donc, ce n'est pas égal. Il ne faut pas qu'il compare ce qui n'est pas comparable. Ce n'est pas le seul qui connaît le Danemark.
D'accord, allez-y.
Donc, je voulais demander à M. Fumel, le régime présidentiel dont vous parlez, ça, ce n'est pas ce que vous avez appris à l'école, ni le régime parlementaire. Ce n'est pas ce que vous avez appris à l'école. C'est ce que vous avez appris plutôt sur le régime et le pouvoir uni. Parce que ce n'est pas ça qu'ils appliquent. S'ils appliquent ça, s'ils appliquent vraiment ça, c'est comme la question qui a été posée tout à l'heure à monsieur Gada, que je viens de la poser. Si le président nomme là, s'il n'a pas de majorité à l'Assemblée, comment il va faire passer les lois? Monsieur Gada, si le président, il nomme le premier ministre de facto de droit ou bien de force, et il n'a pas de majorité à l'Assemblée, comment est-ce qu'il va le gouverner? Et puis, ma dernière pour conclure là, monsieur Gada, j'ai posé une question hier là, à monsieur Kabara qui l'a affronté. Le général veut dire qu'il me pose la même question. Quand vous me dites que les députés qui sont partants sont encore, dont les mandats finis sont encore en jeu, admettons que le président, il fait une loi pour destituer le Parlement. Le Parlement lui répond que quand vous n'avez pas encore élu nos députés, nous aussi on refait une autre constitution pour destituer. C'est ça que vous avez compris, je vous respecte ça, vous comprenez, pour que vous puissiez comprendre. Le président, il dissout l'Assemblée. L'Assemblée dit au président, nous sommes encore en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau député. Donc on a le pouvoir de faire une autre constitution. Et dans cette constitution, on dissout le président. Ou on les désordre que vous faites
D'accord, merci beaucoup Didier. Merci. Oui, allez, bonne journée. 22 21 33 114 91 36 63 115. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre
Abdel.
Pardon?
Abdel.
Ah, Abdel. Depuis Agoué.
Je comprends la position de Jeritama. Lui-même l'a dit à la fin. Le financement des partis politiques. Avec ce nouveau régime, c'est terminé. Les partis politiques devront eux-mêmes chercher leurs moyens de subsistance. Et du coup, ça contribuerait à la disparition de multitudes de partis politiques que nous avons ici au Togo et qui nous pourrissent la vie. Pourquoi Jerry Tama estime que le pouvoir peut faire encore 40 ans? Ça veut dire qu'il ne compte pas sur ses compétences. Il ne compte pas sur le terrain. Mobiliser tout le Togo à sa faveur et prendre l'Assemblée nationale. Ah oui? Donc, ils estiment d'un seul coup que le pouvoir en place, le Parti Unir, est tellement enraciné que personne, aucun parti politique ne pourrait lui arracher le trophée à chaque fois. C'est vrai que même la meilleure équipe du monde ne gagne pas tous ses matchs. Mais ici au Togo, le Parti Unir gagne tous ses matchs parce que l'opposition même est toujours victime de ses forces. Je vous remercie.
D'accord, merci beaucoup Abdel depuis Agoué. 22-21-33-114, 91-36-63-115, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Oui, allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom c'est
Benoît Dagoué.
Benoît, allez-y.
Moi, je salue l'honorable député et vos invités. Moi, j'ai une question, bien deux questions. Le président Fong Yassine est élu sur un projet, ainsi que les députés. Dans leur programme, je pense qu'il n'y a pas de passé de 4e République à 5e République. Pourquoi maintenant attendre nous servir en 5e République? Ils n'ont qu'à attendre en 2000, ou bien on fait les élections législatives et on s'occupe de tout et en 2025, on fait aussi l'élection. Celui qui veut, les candidats qui veulent nous amener en 5e République, on vote aussi le programme, c'est simple. Et aussi, je dis, comment je termine par là, ou bien. Bon appétit.
D'accord, merci beaucoup, Benoît. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Anani.
Anani, vous nous appelez de quel quartier?
D'Adidogomé.
Adidogomé, allez-y.
Moi, je voudrais d'abord saluer le plateau. Parce que, comparativement hier, aujourd'hui, c'est un peu plus calme. Parce que les Togolais ont besoin de réfléchir dans le calme. En plus de ça, je voudrais poser la question à l'honorable Jerry Tama. S'il peut nous dire concrètement, là où dans la Constitution, il est dit qu'on peut modifier jusqu'à transformer totalement, jusqu'à ce que ça ne soit plus ce qui a été modifié. Vous voyez. Donc en plus de ça, combien de temps on peut prendre pour expliquer une nouvelle constitution à un peuple avec une diversité, un niveau d'étude et de compréhension? Est-ce que c'est en une heure et demie, dans une consultation explication, qu'on peut partager un test qui est même méconnu jusqu'à ce que ce test ne soit validé?
D'accord. Merci beaucoup, Anani. 22-21-33-114-91-36-63-115. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, Papa Sibiti.
Bonjour, mon directeur. Bonjour, mon président, Jerry Tama.
Bonjour, Papa Sibiti.
Vous savez, ce pays-là, c'est les politiciens. Vous voyez, le député Jerry Tama venait de parler. Le docteur est venu. Vers où? Vers qui tournait la tête? Vous savez, le problème du Togo aujourd'hui, c'est comme dans le temps, la France, en 73-74, entre Giscard et chose, Mitterrand. Vous avez une maison. Vous demandez qu'on la refroidisse un peu. L'architecte vient, il dit, ceci dit, il faut la casser. Celui-ci vient, dit non, il faut le mur là, il faut le déplacer ici, faire chose. Et finalement, le président, et Giscard d'Estaing, dit bon, cette maison-là, c'est la France. C'est le Togo. Aujourd'hui, les politiciens, le gouvernement, le président de la République, les autres, vous avez à nous amener le calme, la paix dans ce pays. J'ai toujours agi pour la paix. Mon directeur qui a remplacé mon vice canal FM là.
Oui, c'est Pascal. Merci beaucoup, Papa Sibiti. Nous allons recevoir le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce vendredi 22 21 33 74 91. 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce vendredi, bien sûr, 22 21 33 74 91 36 63 75 91 36 63 75, c'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir, bien sûr. Et donc, si nous n'avons plus alors notre auditeur, nous allons revenir alors en plateau. Hein, nous allons revenir pour répondre à des questions. Et après avoir répondu à ces questions, nous allons faire un tour de table et clôturer cette émission. Alors, monsieur le député, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur notre débat aujourd'hui ici. Il y a Didier qui poser la question concernant surtout l'instabilité. Là, je pense plutôt que c'est à Dr Gada qu'il avait posé la question concernant le fait que si dans ce nouveau régime, il arrive quand même que le président destitue l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale également ne peut pas alors se réunir également pour avoir sa propre constitution.
La question est à l'honorable ou...
Oui, à vous, docteur.
Non, l'hypothèse que l'auditeur a posé, on ne peut pas l'analyser tant qu'on n'a pas le fond du texte. Cette hypothèse, il faut garder sa question. Et lorsque le texte sera public, on pourra revoir cette question à l'aune des équilibres institutionnels inscrits dans le texte. C'est ce que je peux vous dire. Sinon, et le président de la République, il destitue le Parlement aussi, mais le Parlement, l'Assemblée nationale ne peut pas récuser la position du président de la République dans ce genre de système. On peut récuser la position du chef, du président du Conseil. C'est possible. Il suffit que les alliances changent. Quand les alliances au niveau de l'Assemblée nationale changent, la personne qui est le président du Conseil peut changer. En fait, attendons d'avoir le texte, le fond du texte, pour répondre à ces questions de subtilité.
Monsieur le député, où exactement est écrit dans la Constitution que non, on doit changer la Constitution ou on doit transformer même d'ailleurs tout? C'est une question de Anani.
Je l'ai dit en début d'intervention, c'est que, en fait, on parle de modification. Maintenant, si vous décidez de changer les 100%, est-ce que c'est une modification ou un changement? C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des subtilités. Dans l'esprit, chaque fois qu'on allait à une nouvelle république, on est passé par référendum. Dans l'esprit. Mais rien n'empêche une assemblée de décider, puisqu'on parle de modification, la modification apparaît, tiens, concurremment au président et à l'Assemblée nationale, mais rien n'empêche les députés, quand ils décident de modifier, vous savez, en 2019, on a modifié 29 articles, ce qui était déjà beaucoup. Ben, si aujourd'hui, une assemblée décide en souveraineté de dire, ben, écoutez, nous modifions tout, et on passe, comme on change de régime, on passe à une nouvelle république, ben, fondamentalement, elle a le droit. Mais si on veut respecter l'esprit, et c'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec M. Gada, c'est qu'on ne saurait comprendre d'aller... Parce qu'une constitution, c'est un pacte social. Et donc, on ne pourrait comprendre qu'on va à un nouveau pacte social sans consulter l'ensemble des concitoyens, en passant par un référendum. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, notre position, elle est très simple. Hypothèse numéro un, par rapport à l'exigence que nous disons qu'il faut passer, qu'il faut expérimenter la Constitution de 99, nous demandons le retrait du texte. Mais si le texte doit aller à terme, il est évident qu'il faudra quand même que cette nouvelle Constitution soit votée par voie référendaire. Ceux qui ont introduit le texte, ils ont la majorité. Pour hypothèse numéro un, aux deux tiers, passer par voie référendaire, au 4/5, décider de la passer par voie de l'Assemblée nationale. Mais si on veut vraiment aller jusqu'au bout, ben le minimum serait quand même de passer par voie référendaire. D'accord. Et je pense que ce serait quand même gênant que ce soit la première fois dans l'histoire du Togo qu'on va à une nouvelle république sans passer par voie référendaire.
Docteur Gada, pour une consultation alors du peuple, combien de temps il faut pour expliquer même d'ailleurs une nouvelle constitution alors à ce peuple?
Non, on ne peut pas définir un temps. Ça dépend du type de campagne, de communication, les retours, les contestations, les nœuds qu'il faut dénouer. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais dans le principe, on ne peut pas passer à une autre république sans retourner aux constituants originaires. Et si on veut demeurer dans l'esprit d'une révision constitutionnelle, on doit respecter les verrous qui sont dans la Constitution. Donc, la solution, elle est très simple. On parlait de référendum. Si on avait des sous, on aurait même demandé d'abord au peuple s'il est d'accord qu'on passe à une cinquième république.
Justement.
D'abord, il dit si ou non. Et au cas où c'est si, maintenant, on va lui soumettre au peuple le test du référendum. Mais excusez-nous que les auditeurs nous comprennent très bien. Nous disons, je crois que finalement nos positions se rejoignent. Nous disons que le régime parlementaire en soi, il n'est pas mauvais. On peut l'expérimenter. On peut l'expérimenter. Mais par quelle démarche accéder à ce régime, il faut demander aux constituants originaires, qui est le peuple.
Nous sommes d'accord.
Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur Diritamant, si vous avez un mot.
Non, deux mots. Le premier, c'est que, comme je l'ai dit en début d'émission, le problème n'est pas le régime. Le problème, c'est la gouvernance derrière. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous sommes dans une période tendue. Il faut que chacun sache raison garder, qu'on se dise de toute façon, quel que soit ce qui arrive à la fin de la journée, c'est le Togo qui nous reste. Donc, préservons la paix, préservons la concorde et comprenons que nous sommes parfois dans des batailles politiques, mais nous sommes tous des enfants de la même nation qui s'appelle le Togo.
Il y a l'opposition extra-parlementaire qui a décidé plutôt alors d'être dans les rues pour demander le retrait pur et simple alors de cette nouvelle constitution. Est-ce que vous êtes associé?
Non. C'est une stratégie. Hein. Comme tout autre, nous sommes à l'Assemblée nationale. Nous allons continuer à faire ce que nous pouvons faire à l'Assemblée nationale. Mais je comprends parfaitement aussi que, par exemple, l'opposition extra-parlementaire, n'ayant pas la capacité, par exemple, d'impacter le texte au niveau de l'Assemblée nationale, choisit des manifestations. Ils ont le droit. L'essentiel, c'est que toutes les parties puissent s'entendre pour que la manifestation se passe dans la quiétude.
D'accord. Docteur Gada, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin?
Non, je vous remercie. Et je remercie surtout les auditeurs qui ont appelé, qui nous ont aussi émondé avec leurs idées. Et je crois que je vais rejoindre les conclusions qui ont été faites auparavant. Les morts ne sont pas plus importants, n'est-ce pas, que la vie et la vie politique que nous sommes en train de mener. On ne peut pas, à cause d'un texte ou d'un différend, finir par compter des morts encore dans le pays. Donc, du dialogue. On va réussir. Et on trouvera une solution avec l'inclusion du peuple.
D'accord. Merci beaucoup, docteur. Francisco?
Oui. Donc, tout le monde est d'accord que le test, pour l'instant, c'est comme ce qu'on dit. On vend un chat dans un sac. C'est-à-dire, comme on le dit, on ne peut pas acheter un chat dans un... Donc, personne ne connaît ce test, peut-être en dehors... de l'honorable Diritamant, alors que la procédure aurait voulu que le peuple ait accès à ces tests et aussi aller expliquer et voir tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est très important.
Merci
mais
beaucoup. Oui.
La constitution de 92 révisée
rapidement
en mai 2019 doit aller et doit
continuer. Ok, merci beaucoup Francisco. Oui.
Je pense que j'aime faire lui un truc sur Nelson Mandela qui a dit on ne combat pas un homme, on combat un système. Ce qui est caché derrière ce qui est en train d'être présenté, c'est un débat de personnes. C'est le problème de s'éterniser ou pas au pouvoir. Et je pense qu'en le faisant, est-ce que c'est la bonne démarche? C'est ce qu'on a fait avec Yadimane Sengbe et on s'est rendu compte qu'on a contribué plutôt à l'enraciner.
D'accord, merci beaucoup Firmin. D'accord, merci beaucoup Firmin. Merci parce que notre heure est déjà avancée. Merci beaucoup directement d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale et président du Nouveau Engagement Togolais Net. Merci beaucoup docteur Foli Ekwegada. Vous êtes politiste, enseignant, chercheur dans les universités à l'heure du Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous tous qui nous avez appelés, vous tous qui nous avez suivis aussi. Merci à Thomas Datevi qui a assuré la mise en onde, Jérôme Dakouta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Loussou, je vous retrouve déjà lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Au revoir.
93.5 Canal FM.
Say yeah.